Destination en commun.
Bonjour et bienvenue dans les podcasts Ilévia. Je suis Gaëlle et je serai votre compagnon de voyage dans cette chaîne de podcasts. À travers différents épisodes, différentes thématiques, vous allez découvrir les coulisses du Vélil, du métro, du tram, des bus. Nous allons aussi vous partager des conseils, des témoignages et des paroles d'experts. Bref, nous allons mieux comprendre le fonctionnement des transports en commun de la métropole européenne de Lille et vous l'aurez compris, nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Aujourd'hui, je suis sur la ligne 2 du métro à hauteur de la station Mairie de Lille et je suis avec Emmanuel, guide touristique qui accompagne notamment les mobilités actives sur la métropole européenne de Lille. Alors, au programme, une balade à pied entre la station de métro Mairie de Lille et la station de Vélille près de la Porte de Paris. Vous ne le savez peut-être pas, mais par ici, l'histoire et le patrimoine ont bien des secrets à nous révéler. Alors, suivez-moi, je vous emmène. Bonjour Emmanuel.
Eh bien, bonjour Gaëlle.
Vous êtes guide touristique, je le disais tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous embarquons pour aller voir Paloma sur les épaules d'Edouard, pour chanter une chanson connue et passer au pied de deux géants, et même sortir de la ville par la Porte de Paris. Tout un programme. Allez, c'est parti. Nous sommes donc en plein cœur ici de la station métro Mairie de Lille et nous prenons les escaliers de droite qui mènent à la surface, là où c'est indiqué sortie hôtel de ville. Allez hop, par les escaliers. C'est un bon moyen de faire du sport sans en avoir l'air. Nous arrivons ici dans le quartier appelé Saint-Sauveur et nous sommes à l'angle de la rue Saint-Sauveur et de la rue Kennedy. Le trajet que nous allons faire ensemble se fait à partir d'ici jusqu'au boulevard Louis XIV où je vous quitterai à la station Vélille pour poursuivre mon trajet. Alors c'est un quartier qui a une apparence carrée, béton, totalement reconstruit pendant les Trente Glorieuses. Mais il regorge de belles surprises. La première, elle se trouve juste là, à côté de la maison en sortant par les escaliers, sur le mur peint de ce bâtiment. C'est une école. Et juste à l'angle, sur l'avenue Kennedy, la peinture, c'est pas de la peinture, c'est des plaques de céramique fixées au mur. Et aviez-vous déjà remarqué l'enfant endormi sur les épaules d'un homme? En haut à droite, l'enfant qui dort. Il a l'air calme, confiant, comme à l'abri de l'agitation des couleurs des scènes de gauche. Saviez-vous que c'était Paloma Picasso sur les épaules d'Edouard Pignon? Édouard Pignon, c'est un artiste de la région. Il a travaillé un moment dans le même atelier que Pablo Picasso. Et le soir, alors qu'ils repartaient ensemble, Édouard prenait Paloma sur ses épaules. Et elle s'endormait là, tranquillement. Par la suite, Pignon s'est inspiré de cette scène. Et dans son œuvre, on retrouve souvent ce thème, l'homme qui porte un enfant sur ses épaules, l'homme à l'enfant. Allez, nous allons traverser en diagonale de la rue Saint-Sauveur pour arriver au square Augustin-Laurent, face à l'entrée de l'hôtel de ville. Une prochaine fois, si tu veux, nous irons voir les trésors cachés de la rue Saint-Sauveur. Comme l'église au style néo-byzantin, mais surtout le pavillon Saint-Sauveur. C'est un bâtiment du XVIIe siècle et c'est l'unique vestige d'un hôpital construit en 1215 par notre fameuse Jeanne de Flandre, appelée aussi Jeanne de Constantinople. Et maintenant, je te propose de deviner le titre de la chanson suivante. Dors mon petit quinquin, mon petit pouchin, mon gros rogin, te fera du chagrin si tu ne dors pas jusque demain.
Dors mon petit quinquin.
Ah non, le vrai titre, c'est le canchon dormoir. Et c'est là, à côté du square dans la rue Saint-Sauveur, que résidait son auteur. Il s'appelle Alexandre Desrousseaux. Et peut-être que la Dentelière aussi, elle habitait ici. Parce que c'est un quartier très populaire où vivaient les ouvriers du fil et du textile. Ils vivaient et travaillaient parfois dans des conditions très rudes qui ont été dénoncées par Victor Hugo, qui avait visité le quartier. Cave de Lille, on meurt sous vos plafonds de pierre. J'ai vu, de ses yeux pleurant sous ma paupière, râler l'aïeul flétri, la fille aux yeux hagards de ses cheveux vêtus et l'enfant spectre au sein de la mère statue. Ces vers font résonance avec la chanson et avec la statue de marbre représentant le petit quinquin. La dentelière, elle essaye d'endormir son fils. Elle a besoin de finir son travail avant que la lumière de la bougie ne s'éteigne. D'ailleurs, vous pouvez voir l'original de la statue dans le hall de l'hôtel de ville et sa réplique qui est dans le square Foch, près de la rue Nationale. Avançons maintenant jusqu'au parvis de l'entrée publique de l'hôtel de ville. C'est une partie moderne du bâtiment. En longeant le bâtiment vers la droite, nous arrivons vers la porte qui peut nous emmener au 7e ciel. Une porte en bois ancienne qui, en réalité, mène à l'entrée du beffroi et nous amène à 104 mètres de hauteur. On peut le visiter du mercredi au dimanche et c'est une belle ascension. Bon, pour tout dire, il y a un ascenseur. De là-haut, la vue sur les toits de l'île est magnifique. Et quand il fait clair, la vue à 360 degrés est époustouflante. Elle porte jusqu'à plus de 30 km. Et au sud, vous pouvez voir les terrils, les monts de l'Artois, et même reconnaître la blancheur du mémorial canadien de Vimy. Continuons à longer le bâtiment de la mairie. Au coin de ce même bâtiment, regarde, il y a des pieds et des statues gigantesques. Prenons un peu de recul pour les voir en entier. Sur cet angle sont sculptés les géants de la légende. Ce sont Lidéric et Finard. C'est l'histoire d'un enfant, Lidéric, dont le père a été tué par Finard et qui a été confié par sa mère à un ermite. Adulte, il décide de se venger en tuant le méchant Finard dans un duel devant le roi. Et en récompense, il obtient ses terres, les terres de Finard, et il y fonde la ville de Lille. Et les géants, ceux qui peuvent sortir en procession dans la rue, sont conservés dans la grande galerie de l'hôtel de ville. On peut y voir Finard représenté avec sa hache et Lidéric. Ils mesurent plus de 6 mètres de haut et il faut 6 à 8 personnes pour les porter. C'est énorme. Allez, on continue. Partons du pied du beffroi pour nous éloigner de l'hôtel de ville et nous approcher de l'Arc de Triomphe qui se situe en plein milieu de la place Simon-Volant. Et pour cela, nous traversons le parking en diagonale et prenons le passage piéton. Nous rejoignons la porte de Paris. On ne la regarde pas tout de suite. Pour l'instant, on lui tourne le dos pour faire face à la rue Pierre-Mauroy. Un peu plus loin là-bas, sur la gauche à 200 mètres, nous pouvons voir l'ermitage gantois. C'est un bâtiment au style Renaissance flamande. C'est un ancien hospice. Attention, je cite l'extrait de l'acte de donation. Pour vieillards indigents, 13 anciennes gens décrépités et débiles, hommes ou femmes, au moins sexagénaires, originaires de Lille ou de sa châtellerie. Sympa, non ? Il a été fondé au 15e siècle et a grandi au 17e. Et aujourd'hui, c'est un hôtel 5 étoiles. On peut aller y boire un verre ou tout simplement entrer pour visiter. La chapelle, la salle des malades, la pharmacie, le jardin. Il y a même l'association du musée hospitalier régional de Lille qui propose chaque mardi après-midi une visite guidée. Je vous la conseille. Allez, maintenant retournons-nous et regardons la façade de la Porte de Paris. Ce n'est pas celle d'origine. Celle-ci a été construite par Louis-Marie Cordonnier lors de la rénovation dans les années 1890. C'était après le 7e agrandissement de la ville et le démantèlement des remparts. C'est aussi à cette période qu'on a construit la place ronde et le jardin qui entoure la porte. Venez, passons de l'autre côté. Lorsqu'on franchit la porte, on sort de la ville. Et par le pont-levis, s'il vous plaît. On avance jusqu'au bout du passage avant de se retourner à nouveau. Et là, c'est cette vue que j'adore. D'ici, on embrasse à la fois la majesté de la porte et celle de l'hôtel de ville. C'est grandiose. Et quand le ciel est bleu, c'est encore mieux. Allez, je me lance dans les explications culturelles. On commence par la porte de Paris. De ce côté, c'est la façade d'origine, construite au XVIIe siècle. C'est un véritable arc de triomphe destiné à montrer à tous la grandeur de Louis XIV en mémoire du rattachement de la ville de Lille au royaume de France. Eh oui, avant sa conquête par le roi Soleil, Lille faisait partie des Pays-Bas espagnols. Et avant encore, elle était une possession des ducs de Bourgogne. Après une bataille de 9 jours, Louis XIV a pu entrer dans la ville par la Porte des Malades. Et il y a reçu les clés de la ville. Et c'est juste ici, à cet endroit, qu'a été construite la Porte de Paris. Regardons juste au-dessus du passage. Il y a les armoiries de la ville, qui sont surmontées par l'écusson royal. Et là-haut, tout en haut, c'est une allégorie de la victoire. Elle dépose une couronne de laurier, dorée, sur la tête de Louis XIV. C'est la tête de Louis XIV qui est dans le médaillon. Il y a les trompettes de la renommée, et en bas, on voit Mars à gauche et Hercule à droite, la guerre et la force réunies. Cette porte faisait partie des remparts jusque dans les années 1860. De part et d'autre se trouvaient donc les murs de la ville, et sur la droite, si on continue la rue du Réduit, on peut aller voir la noble tour. C'est l'unique rescapé des remparts médiévaux. Et maintenant, regardons l'hôtel de ville. Cet hôtel de ville, je le trouve sublime. Souvent, on me demande pourquoi l'hôtel de ville n'est pas au centre-ville. Il y était avant, au palais Riour. Il a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et on a décidé de reconstruire un hôtel de ville. Le choix s'est porté alors sur ce quartier, Saint-Sauveur, car la ville était en pleine rénovation après-guerre, et aussi, dit-on, parce que c'était un quartier populaire et que les autorités de la ville voulaient montrer une certaine proximité avec le peuple. On a un très bel édifice. Il est construit entre 1924 et 1931. Il conserve l'identité régionale, le style lillois, avec la brique rouge, les parements blancs, et il combine un matériau moderne pour l'époque, le béton armé. À l'intérieur, la grande galerie de style art déco est superbe. Si vous en avez l'occasion, allez-y, vous verrez, c'est vraiment très très beau. C'est ça que j'aime dans ce quartier. La diversité des époques qu'on peut y voir quand on regarde bien. Allez, il est temps pour nous de rejoindre le boulevard Louis XIV. Avant de prendre un vélo à la station Vélille, on va passer par le plus petit boulevard de Lille. Là, juste en face de nous, le boulevard Papin. Et plus loin, les grilles rouges, celles du parc Jean-Baptiste Lebas. Bon, tout le monde l'appelle le Parc Rouge. On se dit toujours « rendez-vous au Parc Rouge ». C'est un parc qui a été aménagé pour l'île 2004. Et franchement, c'est tellement mieux d'avoir un parc ici, à la place de l'ancien parking en terre battue qu'il y avait avant. Voilà, notre promenade se termine. Je vais prendre mon Vélil. J'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci beaucoup Emmanuel pour cette visite. J'espère que vous avez apprécié tout comme moi la balade. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.